Les bourreaux invisibles par Léon Sazy. Chapitre 1er. La pomme choisie. Mon cher Courville, me dit à deux jours de là, dans l'après-midi, mon ami Martin Numa, en venant me rejoindre au petit café où nous nous rencontrions parfois, mon cher, je suis chargé de vous inviter à dîner pour ce soir. J'accepte. Chez qui dînons-nous?
Le prince Ramolino.
Je sursautais.
Mais je ne connais pas le prince Ramolino.
Moi non plus.
Alors,
mais nous sommes invités tous deux par quelqu'un que nous connaissons bien.
Je devine.
Par le marquis Primo di Carmine Santucci,
précisément.
À quelle occasion?
En vertu de quoi?
En quel honneur, en somme, le marquis nous invite-t-il au nom du prince Ramolino?
Martin Numa sourit.
Le prince a un service à vous demander.
Un service, à moi.
À vous, Courville.
Ne vous connaissant pas suffisamment pour cela,
c'est à moi, qui suis votre ami, que le prince est adressé par l'entremise du marquis Primo di Carmine Santucci pour vous demander ce service.
Quel genre de service?
Mon cher ami, je vais tout vous dire, et vous comprendrez.
Je me trouvais ce matin du côté de la Madeleine, quand je fus croisé par le marquis et le prince. Tous deux avaient l'air de se diriger vers un des cafés de la rue Royale à l'heure du Porto. En réalité, ils devaient depuis un moment me suivre, et hâtant le pas, faisant crochet, ils avaient fini par se trouver en face de moi. Le marquis poussa un cri de joyeuse surprise en m'apercevant, et il me présenta au prince Ramolino.
« Monsieur Martin Numa,
dit-il, le célèbre et merveilleux détective parisien dont vous avez entendu parler, et qui est chargé spécialement de jeter au pied des tribunaux l'assassin de Monsieur Castanier et de ma toujours regrettée fiancée. » Le prince et moi nous échangeâmes quelques paroles banales. Puis la conversation tournant, le nom de l'ami Bessette fut prononcé. Et l'on m'apprit que l'ami Bessette, qui est paraît-il doué d'une voix très agréable, et qui me force faire entendre, devait ce soir même chanter avec les Palestrini, devenus aussi ses amis.
« Les Palestrini ? » demandai-je. « Ce sont deux artistes, mari et femme, des chanteurs ayant grande réputation en Italie. Ils sont de passage à Paris. Amis du prince et du marquis, le prince donne en leur honneur une petite fête. Un concert intime aura lieu chez le prince, et l'on me demanda s'il me serait agréable. On savait que j'aimais les arts, la musique, s'il me serait agréable d'y assister. Je dus accepter. Le marquis alors, sur l'insistance du prince Ramolino, me demanda si je pourrais vous amener aussi.
Vous avez dit oui.
J'ai pensé pouvoir m'engager pour vous.
Merci, j'irai donc.
Vous êtes invité. On vous demandera seulement de faire un petit compte-rendu, un communiqué, qui sera envoyé aux journaux, pour faire plaisir à ces grands artistes que sont, paraît-il, les Palestrini.
Certainement, j'irai avec vous.
Cela me sera très agréable. Mais à votre école, je suis devenu curieux, méfiant. J'aime connaître la raison des choses, et je me demande pourquoi cette invitation, ce qu'elle cache.
Martin Numa me répondit,
« Je ne le sais pas encore. Mais il est évident, et vous n'avez pas manqué de vous en apercevoir, qu'il y a, comme on chantait autrefois, qu'il y a autre chose au fond de tout cela.
C'est certain.
Il n'est pas dans les habitudes des gens du monde d'inviter ainsi, de prier un détective, fût-il, selon les dires du prince, merveilleux et célèbre comme Martin Numa, de l'obliger en somme à assister à un concert intime, à une soirée, à un dîner. Donc il est clair que le marquis, que le prince Ramolino tienne ce soir spécialement nous avoir, vous et moi.
Pourquoi moi ?
Le communiqué à la presse est un prétexte, de même que mon amour des arts. En résumé, on veut à cette soirée un détective, un policier, qui puisse voir et servir plus tard de garantie particulièrement précieuse, si quelque événement se commet, et un journaliste qui pourra publier ce qu'on aura laissé voir de cet événement, ce qu'on veut qu'il dise, ce qu'il faut que tout le monde sache.
Vous devez être dans le vrai, mon cher ami.
Cette double invitation ne me dit rien qui vaille. Il y a certainement un coup préparé.
Une idée me traversa en ce moment le cerveau.
Si c'était, mon cher, un coup contre vous?
Martin Numa secoua la tête.
Ce n'est pas contre moi, me répondit-il, que le coup est préparé.
Qu'en savez-vous?
J'en suis sûr.
Croyez-vous qu'il ne serait pas content d'être débarrassé de Martin Numa?
C'est plus que certain. Ils cherchent le moyen d'y arriver, mais ils ne l'ont pas encore trouvé.
Et quand il tenterait un coup contre moi?
Il ne prendrait pas comme aujourd'hui la peine de me prévenir.
Car il se doute bien qu'un homme averti en vaut au moins deux. Il se doute que je serai sur mes gardes. Non, mon cher Courville, je crois que ce soir je n'ai rien à craindre. Au contraire, ils vont bien me soigner, me dorloter pour m'amadouer, m'endormir. Il y a un coup, et ce n'est pas contre moi.
Peut-être, dis-je encore, sachant que le chevalier Fontis nous a mis au courant des lettres de deuil, se doute-t-il que vous allez faire surveiller l'hôtel du chevalier. En vous attirant au loin, en vous retenant, il compte réussir une nouvelle tentative ce soir.
Peut-être bien, fit Martin Dumas sans conviction. Mais ici encore, ils ne pourront pas commencer leur manœuvre avant que je sois là pour les voir opérer. Mes dispositions sont prises. Ce soir, impossible de faire quoi que ce soit si je ne le permets pas.
Martin Dumas ajouta, « Nous irons donc assister à ce concert. Aussi bien ne suis-je pas fâché de revoir un peu notre ami Bessette
et de savoir si les conduites d'eau marchent toujours bien depuis que je les ai dégelées, » ajouta-t-il en riant.
Le prince Ramolino occupait, avenue MacMahon, un assez vaste hôtel, nous le savons. J'y arrivais quelques instants après Martin Dumas. C'était, comme l'avait annoncé le prince, une soirée intime. Il ne se trouvait donc dans le salon, quand j'y entrais, outre les Palestrini, que 8 à 10 personnes, toutes amies du prince et du marquis Primo, et de nationalité italienne. On me présenta la chanteuse, la Palestrini, une fort belle femme, tout à fait charmante, gracieuse, souple comme toute italienne, mais de cette grâce, de cette souplesse, de cette langueur nerveuse des félins. Ses yeux, fort beaux, avaient des lueurs que les paupières, en se baissant, éteignaient promptement. Les mains, qui jouaient avec un éventail ou les dentelles du costume, avaient par moments des mouvements instinctifs qui faisaient croire qu'elles enfonçaient des griffes, et le sourire montrait des dents éblouissantes, mais des dents de tigre. La Palestrini me rappelait la Focamore. Celle-ci était la tigresse, celle-là la panthère. Elles devaient être toutes deux terribles, implacables, cruelles. Mais pour moi, elle rentra à ses griffes. La panthère resta chatte. La filiée à la mafia, l'ami de ces gens que je savais être des bandits, ne fut pour moi que l'artiste, la chanteuse. De même que pour elle, j'étais seulement le journaliste, celui qui donne aux artistes les fleurs les plus agréables, qui brûle à leur vanité le plus doux encens, celui qui fait la réclame, celui qui établit la gloire. Elle me parla de sa brillante carrière, de ses succès, de ses créations, de ses triomphes. Consciencieusement, je pris quelques notes sur mon carnet. L'ami Bessette, lui pérorait dans un groupe que formaient quelques invités, le prince et le Palestrini.
Cette soirée, dit le prince à Martin Dumas, a été en quelque sorte improvisée.
Elle n'en commence pas moins d'une façon charmante et sous les meilleurs auspices.
Merci. Mon ami le prince Primo s'est rappelé que l'ami Bessette, là-bas chez nous en Sicile, avait chanté. L'ami Bessette a une jolie voix, paraît-il. Comme je suis assez bon musicien, il a voulu nous la faire entendre.
Or, vous vous rappelez les heures douloureuses durant lesquelles le marquis Primo retrouva, après quelques années, son ami Bessette. C'était le lendemain de l'affreuse mort de sa fiancée.
« Je m'en souviens, » répondit Martin Dumas.
Il était à ce moment impossible de faire chanter l'ami Bessette.
En effet. D'ailleurs, l'ami Bessette quitta Paris 2 ou 3 jours plus tard. Mais il est de retour depuis quelque temps. Il est venu ces jours-ci faire une visite à la veuve de son ami le banquier Castagnier, et il a revu le marquis Primo qui, cette fois, lui a demandé de nous charmer.
La coïncidence du séjour à Paris des deux grands artistes, les Palestrini, était une occasion heureuse de faire un peu de musique.
Martin Dumas remercia encore le prince de l'avoir convié à entendre les Palestrini et l'ami Bessette.
« Vous êtes, on me l'a dit, ajouta le prince, très artiste.
J'aime les arts, en effet.
Vous êtes musicien.
En ce sens que j'écoute avec plaisir la musique.
Vous ne faites pas aussi un peu de peinture ?
De la peinture, répondit sans sourciller Martin Dumas.
J'ai barbouillé comme tout le monde quelques toiles autrefois, mais je n'ai plus depuis bien longtemps le loisir de m'occuper de peinture, et je le regrette.
L'ami Bessette était parvenu à se retirer du groupe qui l'entourait.
Ah, mon cher ami, dit-il à Martin Dumas, il faudra que j'aille vous voir.
Vous me ferez le plus grand plaisir.
J'ai encore à vous dire pas mal de choses qui, peut-être, vous aideront dans vos recherches, car enfin, il faut à toute force trouver l'assassin de ce pauvre Castagnier et de cette malheureuse Irma. »
Ces mots jetèrent un léger froid dans le salon, y causèrent un moment de gêne subite, d'anxiété.
Le marquis s'empressa de venir à Bessette et de lui dire « Oui, mon cher ami, il faut que vous nous aidiez dans nos recherches, dans la poursuite de notre vengeance. »
il faut que vous soyez un auxiliaire de la justice.
Depuis cette affaire, reprit l'ami Bessette, ça me tourbillonne dans la tête, ça me bouillonne dans la mémoire, et il m'est revenu des choses bizarres, et qui, je crois, intéresseront beaucoup l'ami Martin Numa.
À ce moment, on annonça le dîner servi. Cette intervention fort opportune du domestique coupa la parole de Bessette. Cependant, il eut le temps de dire à Martin Numa
« J'irai vous trouver à ce sujet et vous parler de tout ça. »
Moi, j'ai le loisir de voir que les amis du prince, que les Palestrini, échangèrent à ces mots un rapide coup d'œil. Martin Numa, lui, eut l'air, tout en causant avec l'ami Bessette, de ne rien remarquer.
« Quand vous voudrez, je vous recevrai avec plaisir, » dit-il au méridional.
Mais il avait tout vu, et sa conviction était, dès ce moment, établie. C'était l'ami Bessette, pauvre homme, la victime désignée de l'attentat, qui devait se commettre ce soir, dans ce dîner, dans cette soirée de musique.
Comme je m'asseyais, je remarquai l'un des domestiques qui se trouvait derrière Martin Numa, en face de moi.
« Mais je connais cette figure-là, » pensais-je en moi-même. Et tout à coup, je reconnus le fidèle Prosper. Mais je me gardais de rien laisser paraître, deviner de cela. Pour seconder son personnel, j'ai appris depuis que le prince Ramolino avait engagé quelques extras. Parmi eux se trouvaient un cuisinier et deux domestiques qui servaient à table. Or, tous trois étaient des gens à Martin Numa. Celui de la cuisine surveillait la fabrication des plats, les deux autres servaient. Et rien de douteux, de dangereux, aucun mets empoisonné en somme, ne pouvait être fabriqué par les cuisiniers italiens et servis à table, mis devant Martin Numa, moi ou l'ami Bessette. Le dîner fut exquis. Au dessert, l'ami Bessette, à qui l'on présentait des fruits, prit à tout hasard une pomme. Mais la Palestrini, qui suivait ses gestes, lui dit gracieusement
« Oh, monsieur Bessette, vous vous êtes mal servi. »«
Mais non, madame, » protesta l'ami Bessette, « c'est un superbe fruit. »«
Non, laissez-moi vous en choisir un autre. » Et avec ce sourire qui ne permettait aucune défense, aucune réplique, elle ajouta
« Vous savez bien que depuis notre mère Ève, les femmes s'y connaissent bien en fête de pommes. »
L'ami Bessette dut s'incliner. Comme un méridional, un citoyen de Béziers ne doit jamais demeurer quoi, même quand un plus méridional que lui, voire un Italien, lui parle, l'ami Bessette, galamment, répondit à la belle chanteuse
« Dans ce cas, madame, je croquerai la pomme choisie par vos mains. Dut-elle me faire perdre ma part de paradis ?»
Ce qui lui valut le plus délicieux sourire de la Palestrini et lui mérita quelques murmures flatteurs de ses voisins de table, parmi lesquels Martin Numa. De ma place, je suivais tout cela. Et je remarquai qu'avant de proposer à l'ami Bessette de lui choisir une pomme, la Palestrini avait pris négligemment dans ses mains aux ongles aigus une petite boîte qui pendait avec d'autres bibelots au sautoir qu'elle portait au cou. Dans la coupe de fruits que lui présenta alors le domestique, la Palestrini choisit une pomme. Elle la prit, la retourna dans ses mains, puis la tendit telle que à l'ami Bessette. Évidemment, cela sortait des règles de l'étiquette, se fait peu en France. Mais peut-être était-ce une coutume italienne. L'ami Bessette remercia la Palestrini, la complimenta sur le choix du fruit, et se disposa à y porter le couteau de vermeil pour la peler, quand un bruit de meubles renversés, de vaisselle cassée, fit retourner tout le monde. Un des domestiques venait de glisser avec sa charge. Je vis Prosper très empressé à le relever. Mais la surprise fut courte, on se remit vite, en riant de cet incident dont s'excusa le prince. Et l'ami Bessette put couper sa pomme en deux. Alors je vis Martin Numa se pencher vers le chanteur de Béziers.
« Mon cher ami, lui dit-il en souriant, permettez-moi de vous dire que vous manquez en ce moment à tous vos devoirs.
Et comment cela, mon cher ami ?
Madame Palestrini vous choisit la plus belle pomme, et vous allez la croquer seule, lui laissant les fruits moins beaux.
Tiens, vous avez raison, s'exclama l'ami Bessette.
En Italie, c'est l'habitude, dans un cas semblable, de partager avec qui vous offre un fruit.
L'ami Bessette n'en demanda pas plus long, il partagea la pomme et la tendit sur son assiette à la Palestrini, la priant d'en prendre une moitié. La Palestrini devint soudain très pâle. Elle hésita à accepter, refusa. Mais devant l'insistance de Bessette, ne put plus longtemps refuser l'offre. Elle prit donc une moitié de pomme et la mit sur son assiette.
« Voulez-vous, madame, lui dit alors le prince Ramolino, me permettre de peler pour vous ce fruit ?»
Le prince, avec sa fourchette d'or, cueille le fruit dans l'assiette de la Palestrini. Il pela cette moitié de fruit avec une habileté grande, mais je remarquai qu'il enlevait une pelure assez épaisse,
si bien qu'il ne présenta plus à la Palestrini qu'un volume de chair de pomme à peine plus gros qu'une noix. La Palestrini le remercia gracieusement et planta dans le fruit ainsi réduit ses dents admirables que le sourire, plus que la gourmandise, faisait étinceler dans leur écran de corail. De son côté, l'ami Bessette se mit à savourer sa moitié de pomme. Il déclara galamment « Il est évident que la greffe qui a produit cette pomme doit provenir du pommier du paradis terrestre. » Quand on se leva de table, je remarquai que Martin Dumas, cependant toujours si correct, si discret, mettait une sorte d'insistance, d'ailleurs très polie, à demeurer auprès de la Palestrini, à la retenir, tout en lui parlant art, musique. Je crus deviner qu'il ne voulait pas lui permettre de quitter le petit salon servant de fumoir où nous étions passés depuis quelque temps. Ce ne fut qu'après qu'on eut pris le café et fumé le cigare, au moment où on passa dans le grand salon pour faire de la musique, que Martin Dumas sembla donner la liberté à la chanteuse. Cette manœuvre, à vrai dire, ne devait être perçue, devinée par tout autre que moi. Les invités du marquis, la Palestrini, elle-même, ne pouvaient s'en douter le moins du monde, et devaient mettre cette insistance sur le charme que produisait la jolie chanteuse sur Martin Dumas. De temps en temps, j'avais surpris un regard de la Palestrini tournant la tête vers le prince Ramolino, et ce regard était plein d'angoisse, d'anxiété. Le prince y répondait par un petit signe amical de la tête ou de la main. Il souriait. La Palestrini alors revenait vers Martin Dumas, qui lançait sur un sujet artistique, parlait d'abondance, traitant un point de musique sans paraître même s'apercevoir de la lassitude, de l'inquiétude, de la nervosité même de la Palestrini. À part moi, je me demandais ce que cela pouvait bien signifier et ce qui se cachait sous cette petite comédie. Enfin, le concert commença. Le prince Ramolino, excellent musicien, se mit au piano et nous fit entendre quelques morceaux de sa composition. Puis il resta au piano et fit l'accompagnateur. La Palestrini et son mari chantèrent. C'étaient deux artistes vraiment remarquables qui nous causèrent, il faut le déclarer, un très grand plaisir. Puis ce fut le tour de l'ami Bessette. Il ne se fit nullement prier. Pour lui, chanter était une joie sans pareille, et je dois avouer qu'il était vraiment fort agréable à entendre et ne manquait pas d'un certain talent. Parfois, quand il parlait de lui, sans fausse modestie, et voyant sa valeur artistique avec des yeux de méridional, qui grossissaient beaucoup, il affirmait consciencieusement « C'est l'opéra qu'il m'aurait fallu, le grand opéra, Paris. » C'était un peu trop, peut-être. Mais il n'eût pas été inférieur à beaucoup d'autres chanteurs ayant quelques réputations régionales. Il avait une voix chaudement timbrée, dont il arrivait d'instinct plutôt que de science à faire un fort heureux usage. On ne lui ménagea pas les compliments. Ce fut à qui le féliciterait, le complimenterait, on lui fit ovation. Le brave garçon, tout ému, tout franc, était comme rayonnant de joie. Il savourait tous ses bravos chaleureux, tous ses éloges avec un bonheur, une satisfaction qu'il laissait pleinement voir. La Palestrini mit le comble à sa joie en lui disant « Quel dommage, monsieur Bessette, que vous ne soyez pas au théâtre. »« Ah, madame, » affirma-t-il, « c'est le regret de ma vie. » Nous aurions certainement eu le plaisir de vous applaudir à l'opéra. C'était faire vibrer la corde sensible. « Ah, l'opéra !» soupira-t-il en levant les yeux au ciel. « Oui, l'opéra, l'opéra !» La Palestrini voulut à toute force chanter ici, ce soir même, un duo avec lui. « Pour me faire plaisir à moi, » dit-elle. L'ami Bessette, qui connaissait tout ce qu'il appelait le répertoire, laissa choisir à la chanteuse le duo qu'elle préférait. Lui, il savait. Il les savait tous. Mais il les savait en français. La Palestrini les connaissait en italien. « Ça n'importe, » dit-il, « comme on dit à Béziers les paroles dans les opéras, c'est seulement pour dire quelque chose. Il n'y a que la musique qui compte, la musique. » Et le duo de Sigurd commença en italien, en français. À vrai dire, il ne fut pas plus désagréable qu'autre chose. Généralement, les chanteurs ont un tel mépris des paroles qu'ils ne savent pas prononcer, qu'on ne comprend pas. Alors, ça n'importe la langue, comme disait l'ami Bessette. Ce fut au demeurant un très joli duo, un moment de sensation artistique très réelle, très charmante. Après Sigurd, ils chantèrent Samson et Dalila. L'ami Bessette, radieux de chanter avec une artiste de la valeur, de la réputation de la Palestrini, fit appel à tout son talent, chanta à plein cœur, il fut plus grand que lui-même. « Ah, si les amis de Béziers nous avaient entendus !» dit-il à Martin Dumas qui le félicitait. Vers 11h30, nous prîmes, Martin Dumas et moi, congé du prince Ramolino en même temps que l'ami Bessette. « Je vais vous reconduire, » nous dit très obligeamment le marquis Primo di Carmine Santucci. « Je vous ramène dans mon automobile. Voulez-vous me faire ce plaisir ?» Nous acceptâmes. Le marquis déposa en premier Martin Dumas chez lui, rue Lepic. Ce fut ensuite le tour de l'ami Bessette, qui fut reconduit jusqu'à son hôtel de la rue Saint-Georges, où il descendait depuis de longues années quand il revenait à Paris. Enfin, le marquis me dit au revoir, rue de Richelieu, devant le journal. Le lendemain, quand cessa mon sommeil, quand j'ouvris les yeux, je vis tranquillement allongé sur mon canapé, la tête renversée sur les coussins, jetant au plafond des bouffées de fumée régulières, le roi des détectives. « Comment, vous ? » lui criai-je, étonné. « Bonjour. Avez-vous bien dormi ? » « Admirablement. »« Bon. » L'ami Bessette a toute la nuit bercé mon sommeil. Savez-vous qu'il a une jolie voix ? Je ne dis pas non. Il chante même bien. Il a eu un petit triomphe hier. Qui aurait pu avoir une fâcheuse apothéose ? Que voulez-vous dire ? Vous allez le savoir. Je me gardais de poser une question sur ce point, sachant que, du moment que Martin Dumas ne me disait rien, ma question ne le forcerait pas à m'en dire davantage. Je changeai donc de sujet de conversation. Qu'y a-t-il de nouveau, de palpitant, pour que vous soyez là ? Je ne sais rien, c'est vous qui nous avez convoqués. Moi ? M'écriai-je, surpris. Certainement. Et j'attends celui à qui vous avez dit de venir ce matin ici. Qui est-ce ? Je ne me souviens pas le moins du monde. Les beaux yeux de la Palestrini vous ont donc troublé le cerveau ? Voyons, dites-moi, qui attendez-vous donc ici ? Qui ai-je convoqué ? Du moins, je sais que Bessette a reçu une carte de M. Courville, journaliste, portant ceci. Mon cher ami, on ne peut pas dire autrement à l'ami Bessette, voulez-vous avoir l'amabilité de passer chez moi demain matin ? Je voudrais des renseignements sur vous, vos études artistiques, vos succès, pour faire un article sur vous. Je m'écriai. Mais je n'ai jamais écrit cela. Je le sais bien. Alors ? Le rendez-vous est donné quand même. Où cela ? Ici, chez vous. Mais par qui ? Par moi. Vous ? Oui, sur une de vos cartes, et c'est pour vous prier de me pardonner de m'être servi de votre carte pour ce subterfuge que je suis ici, attendant votre réveil, et aussi pour voir votre ami Bessette, à qui j'ai deux mots à dire. Vous ne m'en voulez pas. Pour toute réponse, je serrai la main de mon ami et me mis à achever ma toilette. Un quart d'heure plus tard, l'ami Bessette entrait dans mon cabinet de travail, tout frais, tout rayonnant. Il semblait marcher encore sur les nuages d'encens qui, hier soir, accompagnèrent chez le prince Ramolino son succès de chanteur. « Bonjour t'es, mes amis, mes chers amis, » nous dit-il en entrant, nous tendant les mains. « Je suis bien content de vous revoir. »« D'autant plus, » fit Martin Dumas, en rendant sa poignée de main en double au brave homme, « d'autant plus que vous avez bien failli ne plus nous revoir. »« Eh, comment cela ? Vous partez en voyage ? Pas nous, mais vous. »« Oh, moi, c'est mon métier. » Je voyage pour les vins. Cependant, je compte encore rester quelque temps à Paris. « Pas du tout, » fit vivement Martin Dumas. « Vous partez tout de suite. »« Eh, tout de suite ?» s'écria l'ami Bessette avec un étonnement profond. « Moi, je pars tout de suite ? Tout au moins dans un ou deux jours. Qu'est-ce que vous me dites là ? C'est nécessaire, parce que vous avez manqué de faire un voyage dont on ne revient plus. » L'ami Bessette roulait, en regardant celui qui lui parlait, des yeux absolument stupéfaits. J'avoue que moi-même, bien que connaissant mon ami, j'ai été intrigué par ses paroles. Martin Dumas, cependant, impassible, calme, reprit. « Vous avez passé une bonne nuit, mon cher Bessette ?»« Très bonne nuit, mais... »« On vous a remis à temps la carte de notre ami Courville ?»« Oui. »« Au moment où vous alliez quitter l'hôtel pour vous rendre, selon votre habitude, à Bercy ?»« C'est cela. »« Vous avez pris connaissance de la carte et, après votre succès d'hier soir... » Vous avez, tout en prenant votre chocolat du matin, pensé qu'aujourd'hui les vins pourraient passer après la musique. C'est exact. Et vous êtes venu ici. Parfaitement. Et voici qu'au moment où vous remontiez la rue Saint-Georges pour venir ici, rue Lepic, vous avez cette surprise de rencontrer, par le plus grand des hasards, un des convives du prince Ramolino, un de vos admirateurs d'hier soir. « Mais oui !» déclara l'ami Bessette de plus en plus étonné. « Et, » reprit Martin Dumas, toujours impassible, et cet ami a été, comme vous, extrêmement surpris de vous rencontrer ce matin, et s'est montré très heureux de vous renouveler ses sincères compliments. C'est cela. Il vous a demandé où vous alliez, pour faire avec vous, si cela ne vous gênait pas, un petit bout de promenade, tout en causant musique. L'ami Bessette inclina la tête pour dire oui. Ce méridional, abasourdi, ne trouva plus de mots pour exprimer son étonnement.
« Vous avez répondu, t'es précisément. En fait de musique, on vient de me remettre la carte de ce journaliste, M. Courville, qui était présent hier à la soirée du prince Ramolino. »
L'ami Bessette se trouvait de plus en plus stupéfait.
« C'est bien ça. » Et cet ami rencontré, comme par hasard, vous dit, « Cela tombe bien, je vais justement aussi, place Blanche. Voulez-vous que je vous accompagne jusque-là ? »
Il m'a dit cela, en effet.
« Et vous avez fait route ensemble jusqu'à la place Blanche, parlant musique, chant, Palestrini, et même évoquant quelques souvenirs de vos voyages en Sicile. »«
Mais c'est exact, c'est exact. »
Et le bon ami Bessette prononçait en méridional.
« C'est exact, c'est exact. » Avec une stupéfaction qui tournait à l'ahurissement.
Cet ami de Sicile vous tint compagnie non seulement jusqu'à la place Blanche, mais même durant un bon bout de la rue Lepic. Il ne vous quitta vraiment qu'au moment où vous êtes entré dans cette maison.
L'ami Bessette enfin put s'écrier, étendant ses petits bras.
« Ah ça, mais vous êtes donc sorcier !»«
Plus que vous ne croyez. Vous verrez par la suite. »
Martin Dumas reprit. « Donc, mon ami Courville vous a prié de venir chez lui, lui donner quelques renseignements sur vous, sur votre carrière artistique, si je puis dire ainsi, afin de faire passer une petite note sur votre talent, qui est, mon cher Bessette, tout à fait remarquable.
Vous êtes bien bon. »
Il ajouta avec une candide simplicité. « J'ai du talent, c'est vrai, mais je croyais que c'était seulement, comment dirais-je, bon pour la province, pour le Midi. Ce succès que j'ai eu hier soir avec ces grands artistes italiens et que vous me faites l'amitié de me rappeler aujourd'hui me prouve une fois de plus qu'il est tout à fait regrettable que je n'ai pas pris le théâtre. Je pense que je n'aurais pas été dépaysé à l'opéra.
« Certainement non, » déclara Martin Dumas. « Seulement, après ces éloges mérités absolument, vous allez me permettre de vous donner un petit conseil que vous suivrez à la lettre.
Changer d'accent, peut-être ?
Non, ça n'a aucune importance quand on chante. Il s'agit de toute autre chose. C'est bien plus sérieux.
J'écoute. Tout d'abord, je vais vous poser une question.
« Voyons, cher ami Bessette, tenez-vous à la vie. »
L'ami Bessette sursauta. « Si je tiens la vie, mais fermement, j'y tiens beaucoup. »
« Bon. Alors vous allez me promettre de ne plus chanter.
Non seulement avec les Palestrini, mais même avec tout autre chanteur italien qui vous engagera à venir vous faire entendre chez lui ou chez des amis. »
L'ami Bessette n'y comprenait plus rien.
« C'est une affaire trop longue à vous expliquer, mon cher ami Bessette, mais vous êtes très intelligent, vous comprendrez. » Je vous engage donc à refuser désormais catégoriquement de cueillir de nouveaux lauriers en Italie.
Mais pourquoi ?
Parce que hier, vous avez failli chanter pour la dernière fois.
Oh !
Ça n'a pas réussi parce que j'étais là. Mais une autre fois, quand je n'aurai pas ce plaisir de vous entendre, vous ne chanteriez plus le lendemain.
Pourquoi ?
Parce que le lendemain, vous seriez mort.
L'ami Bessette fit un bond.
Il quitta le fauteuil et se retrouva sur ses courtes jambes.
« Mort ? Moi, mort ? Et Mordius ? Qui voudrait tuer l'ami Bessette ? Pourquoi ? Mais je n'ai pas un ennemi sur la terre. Je suis l'ami Bessette, l'ami de tout le monde. »
« Sans doute, vous êtes un homme absolument sympathique, qui ne devait compter que des amis. Mais cela ne vous met pas moins en grand danger.
Je n'y comprends rien.
Vous savez, ou peut-être croit-on que vous savez des choses qu'il ne faut pas, pour certaines gens que vous sachiez.
Quelles choses ?
Je les ignore, mais le fait est certain. » Je puis vous avertir du danger en vous disant que vos voyages en Sicile sont votre condamnation.
Par exemple,
vous avez le tort de bien connaître là-bas des amis que vous avez difficilement reconnus à Paris.
L'ami Bessette poussa un cri.
Le marquis, le marquis !
Martin Dumas s'est élevé également.
Il mit la main sur l'épaule du chanteur et le força à reprendre sa place dans le fauteuil.
Mon cher ami Bessette, dit-il, à tout autre homme du Midi, à tout autre qu'à vous, je ne dirai pas ce que vous allez entendre, mais vous nous avez prouvé que vous pouviez, quoique méridional, dire la vérité. Je suis certain que, quoique du Midi, vous saurez garder un secret, et d'autant plus qu'il y va de votre vie. Donc, voici, vous avez connu en Sicile le marquis di Carmine Santucci.
Certainement.
Or, le marquis Primo di Carmine Santucci est double.
Double, fit l'ami Bessette.
« Comment double ?
Je n'en sais rien. Mais il est visible que le marquis est double, et fort gêné de savoir qu'il est à Paris un homme que je connais, que je peux interroger, qui a connu en Sicile un marquis di Carmine Santucci.
Il est évident que pour éviter toute déclaration, toute nouvelle confrontation, toute autre déclaration d'amitié ancienne, il faut que l'ami Bessette disparaisse. Mais c'est fou !
Non point, je continue.
Et je vous demande pardon de détruire en passant quelques-unes de vos illusions.
Mais ce n'est pas pour apprécier votre grand talent de chanteur qu'on vous a invité hier soir chez le prince Ramolino.
Allons donc. Alors pourquoi était-ce ?
Pour vous faire manger une pomme.
L'ami Bessette regarda Martin Numa, se demandant si ce qu'il disait était sérieux ou si c'était une simple plaisanterie. Mais Martin Numa, avec de nouveau une cigarette aux lèvres, le visage grave, tenait rivé sur le chanteur, ses yeux gris d'acier. L'ami Bessette comprit que cet homme ne plaisantait pas.
Martin Numa poursuivit. La belle Palestrini, la chanteuse, vous a forcé d'accepter une pomme choisie par elle.
C'était une attention charmante.
D'autant plus que la pomme était, selon la mode italienne, selon la tradition, empoisonnée.
Oh, pas possible. La pomme était empoisonnée.
Oui. Cependant, s'il était empoisonné, j'aurais été malade puisque je l'ai mangée.
Vous avez mangé celle que je vous ai donnée à sa place. Je l'ai changée sans que vous puissiez, ni vous ni personne, vous en douter.
Je vous répète, la pomme était empoisonnée et vous deviez mourir cette nuit.
L'ami Bessette épongea son front ruisselant de sueur.
Mais ça me donne le cauchemar, ce que vous me dites.
Tant mieux, cela vous mettra en garde pour l'avenir. En résumé, on veut vous tuer pour vous empêcher de parler. On a essayé une fois, ça n'a pas réussi. Il faut éviter de tomber dans le même piège. Pour cela, ne mangez, ne buvez rien chez ses amis qui, sous prétexte d'art, vous enverraient au cimetière.
Bon, bon, déclara le méridional. Mais mourant de faim, je ne prendrai rien chez eux. Et d'ailleurs, je vais refuser toute invitation de leur part.
Très bien. Non seulement cela, mais par prudence, vous allez vivement terminer vos affaires à Paris et vous filerez au loin. Vous irez placer vos vins ailleurs que dans le voisinage de ces gaillards.
Rien de plus facile.
Vous ne parlerez à âme qui vive de ces événements ni du marquis Primo di Carmine Santucci, ni du prince Ramolino, ni de Martin Numa, ni de personne, ni de Sicile, de rien. À ce prix-là, vous pouvez être absolument tranquille. Quant à moi, quand j'aurai besoin de vous, je saurai bien vous retrouver.
L'ami Bessette, vraiment troublé, profondément ému, étendit la main.
« Je vous promets, dit-il, d'être muet comme une carpe du Nord. » Puis au moment où remis, confiant et décidé, l'ami Bessette allait prendre congé de nous, Martin Numa lui dit encore « Il va sans dire que vous ne m'avez pas vu ici. Il est bien entendu que je ne vous ai nullement averti, mis en garde.
J'ignore tout. Seulement, je ne me laisserai pas prendre.
Voilà.
Merci sincèrement, cher ami.
Attendez. Il faut jouer vous aussi, la comédie. Et je tiens à ce que vous ayez, vous, une preuve que je ne vous trompe pas et que le danger était réel.
Mais je vous crois.
Mon cher ami, avant de partir demain, vous irez annoncer votre départ et prendre congé de la Palestrini tout en la remerciant du plaisir, de l'honneur qu'elle vous a fait hier.
Bien.
Je vous avertis que vous serez reçu par le Palestrina seul, car sa femme est très malade.
Elle est malade.
N'a-t-elle pas mangé un peu de la pomme qu'elle vous avait choisie ?
Très juste.
Bien que le prince la lui ait pelée consciencieusement et bien qu'on lui ait fait prendre des contrepoisons, elle est malade.
« Très gravement malade. »«
C'est terrible, ça, » déclara l'ami Bessette.
« Vous voyez, » reprit Martin Numa, « que je sais déjà ce qui se passera demain au cours de cette visite. Je suis donc plus sorcier que vous ne pensiez. »
Peu après, le méridional se retirait.
« Mon cher, » me dit alors Martin Numa, « ces misérables allaient commettre cette infamie de tuer ce pauvre diable, ce brave garçon inoffensif. »
Je me doutais, du coup. Cette invitation à assister à la soirée me parut tout à fait anormale, et ce hasard de la rencontre pour me faire cette invitation me semblait trop voulu. Mon attention fut mise en éveil, et je tins absolument à vous emmener avec moi.
Savez-vous ce que ces gens-là s'étaient dit ?
Ils s'étaient dit que la présence de Martin Numa et de Courville à cette soirée artistique devait écarter tout soupçon. Personne ne pourrait supposer que sous les yeux mêmes du policier, du détective Martin Numa, un crime avait pu être commis avec cette audace. Dans la nuit ou la matinée d'aujourd'hui, l'ami Bessette serait mort dans des souffrances terribles sans que l'on puisse en trouver la raison. Mais le poison, imperceptible, insaisissable, il aurait échappé à l'autopsie, à l'analyse, c'est un poison végétal, une sorte de strychnine.
Comment avez-vous su ?
Vous souvenez-vous qu'au dîner, parmi les domestiques d'extra engagés par le prince, qui fit servir le repas par une célèbre maison de Paris, se trouvait Prosper. Je l'ai reconnu, en effet. Prosper, qui nous veillait tous trois, au moment voulu, fit tomber un des domestiques en portant de la vaisselle. Cela causa un certain trouble. C'est pendant ce moment, où chacun avait la tête tournée vers l'auteur de ce bruyant accident, que j'ai pu subtiliser la pomme de Bessette et la remplacer par une autre. Cette pomme, je l'analysais avec un de mes aides, chimiste remarquable. Nous avons trouvé le poison. Cette sorte de strychnine doit être un des 10 ingrédients qui entraient dans la fameuse aqua tofana dont les Borgia ont établi la terrible réputation. Martin Humain poursuivit. Le poison était contenu dans la petite boîte en or qui faisait partie de la trousse de la belle Palestrini. Avant de choisir la pomme, elle trempa ses ongles dans cette boîte. Ses ongles, longs et pointus, en cueillirent une dose suffisante pour tuer un homme. Ses ongles introduisirent profondément le poison dans la pomme. L'ami Bessette, s'il avait mangé ce fruit, devait infailliblement mourir. Le pauvre ami. Quant à la Palestrini, elle est malade moins de la pomme mangée, presque de force, que des antidotes énergiques qu'on lui a fait prendre depuis. Il se passe ce phénomène que le contrepoison qu'on lui a fait absorber l'ayant rendu malade, elle s'imagine que le poison fait son effet, remplit son rôle, et elle est doublement malade, doublement souffrante. Elle est comme vraiment empoisonnée. Voyez-vous, si elle allait mourir à la place de Bessette, ce ne serait pas le moins curieux de cette aventure.